Donc, maintenant, nous allons sauter aux exemples d'entreprises qui ont intégré les ODD. Donc, on va vous mettre beaucoup à contribution là, à travers cette section-là pour que vous puissiez nous dire, au fond, selon vous, quels ODD sont intégrés là, dans ces entreprises-là. Donc, on vous présente à l'écran les 17 ODD. Et très rapidement, je vous présente un exemple d'une entreprise bien établie là, à travers l'Amérique du Sud, mais surtout et principalement à Haïti. Une entreprise qui s'appelle Plastic Bank, qui est vraiment un modèle assez innovant et qui serait, là, selon mon humble avis, un modèle à dupliquer et à multiplier partout dans le monde. Donc, c'est une start-up qui s'est établie en Haïti en 2013 et ce qu'ils font en fait, c'est que ils ont installé des points de collecte où les populations ramènent les déchets de plastique qui sont ensuite revendus à des entreprises industrielles pour servir à la fabrication de nouveaux produits. Par exemple, Henkel, qui est une société allemande, les reprend pour faire des bouteilles de shampoing, de savon pour les cheveux ou le corps. Et Johnson va les reprendre pour faire des bouteilles de produits nettoyants. Donc, traditionnellement, la collecte de plastique n'est pas nécessairement bien vue en termes de perception. Les gens qui le font ne sont pas nécessairement bien vus, mais là, comme ils reçoivent finalement une rémunération pour le faire, une rémunération en argent, ils peuvent recevoir des crédits téléphone, de l'électricité, du Wi-Fi. Finalement, ça devient une fierté puis une opportunité de réduire les inégalités. Ça contribue davantage à faire accepter cette pratique qui, au fond, a des bénéfices environnementaux importants. Et en Haïti, il y a un partenariat avec les écoles et les gens peuvent payer l'école, les frais scolaires, finalement, avec les crédits ou l'argent qu'ils reçoivent de Plastic Bank. Et Plastic Bank a même créé une application, en fait, avec un compte en banque sécurisé où les gens peuvent économiser cet argent-là qu'ils gagnent en ramenant le plastique. Donc, c'est 7,7 millions de kilogrammes de plastique qui a été collecté depuis 2015 en Haïti à travers une trentaine de points de collecte. Donc, l'autre image qu'on vous présente, c'est que ça devient aussi un lieu communautaire où les gens se rassemblent parce qu'ils ont installé des lampes solaires dans tous les points de collecte. Donc, ça devient un lieu communautaire. Bon, Haïti, souvent impacté malheureusement par des catastrophes, pertes d'électricité fréquentes. Et donc, cette start-up devient un fournisseur, ben pas un fournisseur d'énergie, mais devient un point communautaire, etc. Donc, avec cette brève description de Plastic Bank, au fond, notre question pour vous, c'est quels ODD cette entreprise intègre-t-elle? Donc, Francis va vous mettre, si ce n'est déjà fait, dans le... Oui, c'est là, c'est déjà là, dans la section sondage de votre panneau latéral. Donc, on vous invite à nous dire, avec la description qui vient de vous être faite, selon vous, Plastic Bank intègre quels ODD dans son modèle d'affaires? Je vois pas les pourcentages progresser. Écoutez, si vous êtes timide pour ce premier exercice, on va le faire ensemble, OK? Donc, les ODD, au fond, les ODD qui sont mis à contribution, est-ce qu'il n'y a pas de pauvreté? Bien oui, d'une certaine façon, parce que les collecteurs de plastique, ils reçoivent un crédit pour le plastique qu'ils reçoivent. Ensuite, est-ce que l'ODD fin zéro, selon vous, elle est aussi intégrée à travers cette entreprise-là? Oui, parce qu'effectivement, avec une hausse de leurs revenus, bien, ça permet un meilleur accès aux denrées alimentaires. Mais il ils offrent différentes choses, là, les centres de Plastic Bank, et dont des aliments frais. Ça, c'est vrai que je ne vous l'avais pas mentionné en description, mais ils contribuent également à l'objectif 2 de cette façon-là. Au niveau de la santé, bien, ils distribuent aussi des trousses de premiers soins, de secours, assurance maladie, pour répondre à différents besoins de santé. Puis c'est sûr que retirer le plastique des cours d'eau ou réduire l'incinération du plastique, parce que bon, c'est quelque chose qui est beaucoup fait en Haïti, probablement chez vous également. Donc, ça contribue à un environnement, un air, une qualité d'air et d'eau accentuée, donc possiblement une meilleure santé et bien-être. Éducation de qualité, bien, comme je vous l'ai mentionné, comme les frais scolaires qui peuvent être payés à l'aide des récompenses octroyées aux collecteurs, donc ça contribue à la persévérance scolaire. Au propre et assainissement, ben, vous sans doute constaterez que plus de plastique collecté égale moins de plastique dans les cours d'eau. Énergie propre, bien comme on l'a vu, les lampes solaires, finalement, ils contribuent à cette énergie renouvelable. Travail décent, bien, l'entreprise s'assure avec ses fournisseurs sur place, les partenaires locaux là, qui vont transporter, traiter, expédier le plastique, bien qu'ils assurent des conditions de travail décentes à leurs employés. Industrie, innovation et infrastructure, donc l'ODD 9, bien souvent, il n'y a pas d'infrastructure de recyclage, notamment en Haïti, il n'y en a pas une infrastructure officielle. Donc, comme Plastic Bank construit des centres de collecte et met en relation dans l'écosystème des transporteurs, des transformateurs, etc., bien, on crée finalement un écosystème industriel fort. Ensuite, réduction des inégalités. Bien, on l'a vu, comme on contribue à rehausser finalement le standard de vie des collecteurs parce qu'ils reçoivent une rémunération, bien, on contribue à réduire les inégalités. Ils peuvent aussi ouvrir le petit compte de banque avec ce qu'ils récoltent. Et communautés durables, donc bien c'est un modèle circulaire dans la ville où effectivement il n'y avait pas de système de collecte en place, mais là on le met en place à travers cette start-up-là. Consommation et production responsable, bien là on se retrouve du côté des entreprises qui achètent le plastique, qui vont reprendre du plastique recyclé dans leurs produits. Notre fameux ODD 13, celui là qui nous habite davantage pour les ateliers, bien le plastique, comme vous le savez, le produire nécessite beaucoup de pétrole, donc production de gaz à effet de serre, puis il y a de l'incinération du plastique aussi qui est faite, qui donc génère des gaz à effet de serre. ODD 14, bien moins de plastique dans les océans égale meilleure vie aquatique. Et de leur côté, ils ne ciblaient pas l'ODD 15, vie terrestre, mais pour moi, moins de plastique dans l'environnement en général égale meilleure vie terrestre, mais bon. Et ils ne ciblaient pas l'ODD 16, ils ciblaient l'ODD 17 parce que, justement, ils ont été reconnus par les Nations Unies, Plastic Bank, comme un leader dans la défense des ODD puis dans l'aide apportée à d'autres organisations pour atteindre leurs objectifs basés sur les ODD. Donc, on voulait vous présenter cet exemple-là en début de présentation de nos différents exemples parce qu'il résumait vraiment bien l'intégration des ODD, comme ils en intégraient 14 sur 17. Donc voilà. Pour cet exemple de Plastic Bank, j'espère que vous l'avez trouvé inspirant. Là, je vois qu'au niveau des votes, oui, tout le monde avait, ben, tout le monde en fait, une, une majorité de gens avaient indiqué qu'il avait un impact positif sur l'ODD-13. Donc, très bien. Merci d'avoir contribué à la réflexion sur quels ODD Plastic Bank intègre. Et donc, je vais maintenant inviter ma collègue Lorraine à vous présenter nos autres exemples. On vous demande de faire le même exercice, de nous dire selon vous quels ODD ils intègrent.
Alors, merci beaucoup, Karine. Donc, voici un autre exemple de principe d'économie circulaire qui nous permet, bien sûr, de valoriser l'objectif numéro 13 sur l'enjeu climatique. Donc, dans tout résidu, il y a un potentiel d'utilisation au lieu de diriger ces résidus, ces matières résiduelles dans les sites d'enfouissement ou de laisser dans la nature. Alors ici, vous avez une entreprise qui fabrique soit des portes, soit des fenêtres, soit des armoires, mais il cumule un résidu de bois. Mais les bois utilisés, ce sont un bois de composite. Donc, ils comprennent des colles parce qu'il y a eu un ajout de matière pour en faire un bois particulier. Donc, ces résidus... Pardon, excusez. Alors, ces résidus sont, au lieu d'être jetés, sont dirigés vers une entreprise qui a des serres pour, bien sûr, l'agroalimentaire. Donc, les serres dans les pays du Nord ont besoin d'être chauffées. Donc, au lieu de prendre de l'énergie traditionnelle, le bois, le résidu, est utilisé pour le chauffage des serres. Donc, ça permet, au fond, de mettre en communication deux entreprises qui, initialement, ne se connaissaient pas, et qui maintenant partagent des résidus et qui servent bien sûr de part et d'autre. D'un côté, le composite n'est pas jeté, mais le composite aurait pu être vendu, mais il a été décidé par l'entreprise de le donner. L'entreprise qui a les serres, au fond, reçoit gratuitement ces particules qu'elle peut brûler dans un système optimal énergétique. Alors, ce qui permet au fond aussi d'avoir un coût réduit pour le chauffage. Alors, à partir du moment de cette information, donc, sur, d'après vous, quels sont les ODD qui sont particulièrement touchés à partir de cet exemple? Alors, si je regarde l'ensemble des réponses actuellement, principalement, ce qui sonne, on parle de vie terrestre, 11%, 17% lutte contre les changements climatiques. Donc, oui, vous avez raison, c'est un exemple quand même pertinent, d'autant plus qu'on parle de chauffage, donc de récupération. Il faut savoir que le système de chauffage, il est quand même optimal au niveau technologique. C'était un choix important au niveau de l'entreprise. Certains misent sur... le numéro 13 est vraiment gagnant jusqu'à maintenant. Objectif numéro 7, énergie fiable, durable et moderne, en effet. Bonne santé et bien-être, je dirais oui, dans la mesure où on aurait besoin d'avoir un peu plus d'informations sur la façon que les entreprises traitent leurs employés ou aussi comment ils sont intégrés au niveau de la communauté pour une santé et bien-être. Je donne un exemple. Si les poussières composites étaient laissées dans la nature en plein vent parce qu'on cumule à l'extérieur de l'entreprise une montagne de résidus de poussière de bois et que le vent prend dans cette montagne de poussière, ça aurait un effet négatif sur la santé et le bien-être des voisins. Donc, puisque c'est confiné et utilisé ailleurs, bon, alors oui, je pourrais dire que ça a un certain avantage. Mais c'est peut-être pas l'objectif numéro un de l'action de l'entreprise. Alors, voilà. Donc, je pense qu'il y a un consensus sur l'objectif numéro 13 sur la lutte contre les changements climatiques. Ville et communautés durables, je trouve ça intéressant que ça soit mentionné parce que si chacune des entreprises travaille dans ce sens-là, comme nous on fait dans notre région, on a mobilisé l'ensemble des entreprises pour évaluer leurs besoins en matière qui doit entrer dans leur entreprise et mesurer les matières qui sortent en résidus. Donc, ça nous permet de mettre en communication, comme l'entreprise que je viens de vous expliquer, on a réussi à les mettre en communication parce qu'on a évalué qu'est-ce que la personne a et qu'est-ce que la personne, une autre entreprise, a besoin. Connaissant et en cartographiant notre environnement, qui a quoi à donner ou à vendre permet ensuite de mettre les entreprises en relation. Donc, si toutes les entreprises, petites ou grandes, se mettent ensemble et connaissent bien la cartographie de leur ville, bien, on a déjà une synergie de récupération de matière. Donc, ensemble, tout le monde travaille dans une lutte contre les changements climatiques, au moins pour la solution de la gestion des résidus. Et parce que ces communications sont mises, bien, on peut développer des nouveaux partenariats. Donc, l'objectif numéro 17 serait développer des partenariats pour être capable d'évoluer sur d'autres solutions qui apparaîtraient en apprenant à se connaître. Donc, vous comprendrez que dans la roue de l'économie circulaire, on n'est pas seulement pour soi, que toutes ces solutions sont possibles parce que nous sommes en relation avec d'autres gens qui, premièrement, sont en lien avec nos fournisseurs, mais aussi d'autres partenaires qui pourraient devenir des fournisseurs d'intrants parce que des résidus des uns peuvent devenir, au fond, des matières pour produire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des entreprises qui se créent en parlant directement avec les entreprises qui ont des résidus. Donc, ils ont accès à une ressource avant même d'avoir une idée. Ils évaluent le potentiel sur le marché. Et on le voit avec l'exemple ici d'une entreprise de transformation. Donc, on avait initialement un producteur d'ananas. Il vendait ses ananas. Mais au fond, quelqu'un a vu qu'à travers les surplus d'ananas, au lieu qu'elles soient considérées comme une perte, sont maintenant repris pour en faire un jus. Donc, on parle beaucoup d'agroalimentaire au niveau économie circulaire pour s'assurer, et dans la diapositive précédente que vous prendrez le temps de regarder, on est dans le même principe de l'économie circulaire dans le domaine agroalimentaire où, au fond, il faut travailler avec les producteurs, voir le potentiel résiduel pour le transformer et en faire quelque chose. Donc, la diapositive du jus d'ananas permet aussi de vous démontrer qu'une entreprise cherchait un projet et est allé voir un producteur ou même les employés voyant le gaspillage des ananas peuvent se mettre ensemble pour créer ici des jus d'ananas. Donc, l'achat de la machine, normalement, serait optimal au niveau énergétique, au niveau productivité. L'embouteillage pourrait être revu, quel genre de bouteille que je veux pour que les bouteilles que je mettrai sur le marché soient respectueuses de l'environnement. Est-ce que je vais récupérer les bouteilles pour ensuite les retraiter? Toutes ces questions doivent être posées. Donc, prochain exemple. Par rapport au jus d'ananas, donc dans l'agroalimentaire, rapidement, sans reprendre les questions, j'irai peut-être dans l'exemple suivant, que sur le rotin. Donc, l'espace rotin, on a un exemple ici d'une entreprise start-up pour la fabrication de meubles en rotin au Cameroun. Donc, on parle de fabrication de meubles en rotin, bambou, bois. Tout le projet est géré de manière à soutenir les milieux de la construction. Ça comprend aussi une offre de service de formation en vannerie. On parle même d'import et export des produits et d'organisation d'événements culturels et artistiques. Alors, d'après vous, pour la question suivante, d'après vous, quels sont les ODD qui sont liés à cet exemple d'entreprise de rotin? Avec les éléments de base que je vous ai mentionnés, quel ODD serait relié à ce type d'activité? Est-ce que le sondage est bien parti, Francis?
Oui, absolument, oui. Le sondage est là, oui.
Excellent. Alors, merci beaucoup. Donc, rapidement, je vois déjà que l'objectif numéro 12, consommation et production responsable. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici le rotin, tout ce qui est fabrication, soit de chaises, soit de paniers. Lorsqu'on parle de consommation et production responsable, dans la production, on comprend quand même qu'on est dans une fibre naturelle. On ne remplace pas la fabrication de chaises avec des fibres de plastique, ni des paniers. Donc, on est vraiment dans une valorisation d'un produit qui peut être même réparable parce que même ce qui est brisé en rotin peut être réparé. On est dans l'objectif éradication de la pauvreté, objectif numéro 1. Alors oui, si l'entreprise, par exemple, travaille avec une formation, avec l'intégration d'emplois communautaires pour développer une entreprise qui permet au fond de soutenir l'activité de formation. Plus de formation permet aussi, bien sûr, de développer des compétences. Des compétences veut dire aussi des meilleurs emplois, des emplois de qualité. On voit aussi bâtir une infrastructure résiliente. Alors, résiliente, d'une infrastructure dépendamment au niveau des bâtiments. Oui, bien sûr, leur atteint le fait qu'ils participent à des projets de construction. S'ils sont partie prenante, justement, pour trouver des solutions qui répondent à l'objectif numéro 9, bien sûr qu'ils pourraient être, pour avoir un lien. Alors, lutte des changements climatiques, le rotin, bien sûr, est un exemple quand même d'une production locale fabriquée avec des parties prenantes qui s'intègrent dans la mission de l'entreprise. Donc, ça comprend plusieurs sous-objectifs des ODD. Prochain exemple. Donc, distribution et installation de solutions solaires à usage domestique. Donc, est-ce qu'on l'ODD numéro 13 est lié à cette activité et est-ce qu'il y a d'autres ODD aussi? Donc, cette entreprise est spécialisée dans la fourniture, la vente et l'installation de systèmes solaires et éoliens. Ils font aussi des outils, ils ont un conseil et expertise énergétique, ils commercialisent des lampes. Ils ont aussi des travaux de génie civil, puis des travaux en ingénierie de l'énergie. Ici, c'est un bel exemple d'une entreprise qui, au fond, a un ensemble d'activités spécialisées dans son secteur. Donc, comme je mentionnais plus tôt dans l'économie circulaire, on peut travailler avec un ensemble de fournisseurs ou avoir le contrôle où on participe à toutes les étapes liées à l'activité. Cette entreprise est un bel exemple, justement, qu'à travers l'ensemble des activités de vie de l'énergie solaire, bien, ils offrent le service et les fournitures. Donc, pour l'objectif, des objectifs ODD, allons à la diapositive suivante. Alors, le lien, comment les ODD sont intégrés dans ce type d'entreprise. Vous comprendrez qu'on fait juste l'exercice pour réfléchir ensemble. L'entreprise elle-même, si elle veut faire la réflexion, devra le faire, mais avec ses parties prenantes. Puis, dans les 17 objectifs, c'est impossible de répondre à l'ensemble des objectifs. Les parties prenantes qui réfléchissent avec l'entreprise peuvent choisir 3-4 objectifs et miser même sur une pour en faire vraiment le centre d'intérêt et avoir des liens transversaux avec d'autres ODD, mais sans nécessairement que ça soit toutes de manière égale des objectifs à atteindre parce que c'est impossible. Mais ici, d'après vous, l'objectif énergie fiable, durable et moderne, l'objectif 7, bien, au fond, si vous mentionnez 7 et si l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise répondait l'objectif 7, tout le monde choisirait vraiment à ce que l'entreprise travaille pour offrir la meilleure énergie et la plus fiable, la plus durable. Si on parle de durable, c'est que ça comprend bien sûr tout le service de réparation, d'entretien, de pièces de remplacement et moderne, bien sûr. Ensuite, l'autre point, lutte contre les changements climatiques. Si l'objectif numéro 13 est mentionné, bien, ça serait pertinent pour mesurer les progrès que l'entreprise se donne des objectifs mesurables, qu'on peut vérifier qu'ils ont vraiment progressé. Donc, ça prend des outils. Ça veut dire qu'une entreprise qui a plus de moyens financiers et d'organisation pourrait prouver qu'annuellement, il progresse dans la réduction des gaz à effet de serre. Alors, s'il doit transporter son monde pour le travail, s'il doit transporter ses matières, il pourrait changer tous ses camions diesel à des camions électriques le jour où tous les camions seraient électriques et potentiellement possible à mettre partout là où ça c'était possible de les accueillir. Mais dans tout le processus, au fond, c'est se poser la question à quel endroit où j'ai plus d'impact négatif au niveau climatique et qu'est-ce que je dois faire pour corriger et améliorer de manière à réduire mes impacts. Donc, c'est dans ce sens que l'autre élément, éradication de la pauvreté, donner accès à l'énergie solaire, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de donner accès à l'énergie. Et on sait que avoir accès à l'énergie donne l'accès, bien sûr, au développement. Alors, un village, une petite région qui a maintenant l'énergie peut se développer à créer des activités économiques autour de ça. Donc, indirectement, de manière transversale, l'entreprise qui se positionne avec l'objectif numéro 13, particulièrement dans l'énergie solaire, a un impact, et vous avez raison, sur l'objectif numéro 1. Alors, prochaine diapositive.
Oui, Lorraine, juste avant qu'on passe au prochain exemple, il y avait une question dans le chat sur le rotin, en fait. La personne se questionnait sur la valorisation du rotin pour l'économie circulaire en lien avec la possible dégradation de l'écosystème de l'utilisation des produits forestiers. Je l'ai mis, Francis l'a mis effectivement en direct, donc ta réponse sera enregistrée pour la postérité.
Très bien. Alors, merci pour la question, puis c'est extrêmement important. On aurait pu parler de la fabrication des meubles aussi au niveau local avec l'utilisation du bois. Toute matière qui devient de la nature, au fond, doit être pensée, c'est une ressource. Quand on parlait justement de l'enjeu de la ressource, alors, d'une fabrication éco-responsable, c'est travailler en amont avec les entreprises qui ont accès à ces ressources pour travailler à des solutions pour justement éviter la dégradation des écosystèmes. Donc, si par exemple, le projet ne permet pas de protéger l'écosystème, il faut travailler avec l'ensemble des parties prenantes pour trouver des options autres qui permettraient de transformer un produit dans une autre façon de le fabriquer et éduquer la population pour les aider à comprendre que initialement le produit ne peut plus durer pour les raisons suivantes. Parce que vous avez raison, on ne peut pas mettre en péril l'ensemble d'un écosystème, mais à la fois, il y a de l'innovation, puis il y a moyen de préserver les écosystèmes. Je dis toujours qu'il y a toujours une limite à couper du bois, il y a toujours une limite à aller chercher la ressource, mais il y a toujours des possibilités à travailler pour créer un écosystème qui est viable. Alors, d'où l'importance de travailler avec des partenaires pour trouver des options et des solutions. Certaines forêts aujourd'hui sont gérées de manière co-responsable. Il y a des forêts qui reçoivent même une certification. Est-ce que dans ce domaine-là, il y a une certification? Je ne suis pas la spécialiste du rotin, mais ça peut être intéressant peut-être de participer à élaborer au besoin ce type de certification dans la gestion des écosystèmes liés au rotin si vraiment c'est un enjeu extrêmement important, le dépendamment des endroits. Alors, votre question est très pertinente et d'où la transversalité des ODD. Et ça, c'est une bonne question pour démontrer les enjeux. Alors, j'espère avoir répondu à la question. Donc, tout est complexe et c'est surtout se poser des questions, connaître les limites, puis travailler pour trouver des solutions, mais en partenariat. Je pense que c'est ce qu'il faut se rappeler. Alors, vous savez, un autre gros enjeu important mondialement, c'est de la gestion du textile. Initialement, par le passé, tout le textile était fabriqué à partir des fibres naturelles. Avec l'industrialisation, l'augmentation de la population, l'innovation, par moment, l'innovation, on la trouve fantastique, mais elle est aussi, d'une certaine façon, des éléments, des éléments qui ont un impact de retardement, mais un impact négatif important au niveau de l'environnement. Et au niveau du textile, ce sont tous les textiles où on retrouve des éléments synthétiques, le polyester, tout ce qui est les spandex de ce monde, alors qu'ils contiennent au fond des fibres de pétrole, parce que c'est fait, bien sûr, à partir d'éléments pétroliers. Donc, dans la nature, dans la décomposition, c'est pas le même impact qu'une fibre naturelle. Donc, on parle de plus en plus de la durée de vie du niveau textile, de la récupération, et à la fois, on a un exemple ici où on intègre le volet culturel dans la seconde vie d'une matière textile avec l'entreprise IDIR. Donc, ils ont repris une pratique ancestrale. IDIR veut dire vivant en berbère. Alors, c'est de faire revivre au fond une matière. Donc, ils fabriquent des tissus à partir des tissus et fils recyclés. Ils font des tapis. Ils font aussi différents éléments de décoration pour faire un tissage vraiment qui aujourd'hui est recherché par tous les décorateurs, designers de ce monde parce qu'ils ont réussi à créer le nouveau design qui correspond aux besoins maintenant des consommateurs d'aujourd'hui. Donc, vous avez ici un exemple de récupération de matière pour en faire un élément design recherché. Donc, ils ont créé de la valeur à partir de matières qui, au fond, historiquement, pourraient se ramasser dans des sites d'enfouissement ou en pleine nature. Donc, prochaine diapositive sur la question. Avez-vous les ODD associés? D'accord, on va reprendre l'autre exemple, puis on va se poser la question en dernier. Donc, Burkina Faso, une marque Faso d'Anthony, donc un tissu traditionnel. De leur côté, ils ont travaillé pour mettre en valeur un patrimoine local. Ils ont travaillé à une insertion professionnelle des femmes pour le tissage. On parle de tissage de coton. On parle de femmes qui sont formées. On parle de création d'emplois, de développement de partenariats, de pagnes vendues, puis des pagnes vraiment fabriquées de manière traditionnelle. Puis sans aller dans les détails, ils utilisent même des teintures végétaux et respectueuses de l'environnement. Alors, sans connaître nécessairement s'ils ont une certification, ça serait important d'évaluer, bien sûr, s'ils ont des certifications associées, même jusqu'à la catégorie des teintures utilisées. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ici, un autre exemple rapidement. Donc, on est dans une teinture avec un prêt-à-porter au Sénégal. Donc, on parle de teinture, de fabrication locale, la valorisation des compétences. Donc, il y a vraiment de plus en plus d'intérêt au niveau de la petite entreprise pour travailler dans cet aspect-là. Et les consommateurs aujourd'hui qui sont de plus en plus sensibilisés, bien sûr, à la fabrication locale et aux impacts aussi de leur culture, encouragent ce type d'entreprise. Donc, au niveau des startups, il y a de la place, bien sûr, pour se développer dans ce sens.